Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite à tous un excellent sabbat. J'aimerais commencer aujourd'hui avec une question qui nous touche tous. C'est une question que nous nous sommes tous posées à un moment donné ou à un autre. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Nous servons à quoi? Nous sommes composés de quoi? Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver après cette existence que nous avons actuellement? Qu'est-ce que l'homme? C'est une question qu'on se pose depuis que les êtres humains existent sur Terre. Je suis convaincu qu'Adam et Ève ont dû se poser la question « Qui suis-je? À quoi je sers? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi sommes-nous ici-bas? Et à quoi est-ce que nous pouvons aspirer? Quel est le but de notre existence ?» Tout cela est résumé par la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Les philosophes se sont penchés sur la question. Denis Diderot, par exemple, a dit « Dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est le définir. » Et c'est vrai, nous sommes, par définition, tout cela. Beaucoup de conflits, beaucoup d'opposition interne dans l'humanité, chez les êtres humains. Jean-Paul Sartre a dit dans un autre registre, « Il n'y a que Dieu. L'homme, c'est une illusion d'optique. » Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous ne sommes pas vraiment ici? Ou est-ce que nous sommes vraiment ici, mais de quelle manière? Nous voudrions le savoir. On se pose la question depuis toujours. Savoir quels sont les êtres humains. Pourquoi sommes-nous différents des animaux? Quelle est notre situation devant Dieu? Quel est le rapport que nous pouvons avoir avec notre Créateur? Notre nature humaine est-elle bonne ou mauvaise ou neutre? Qu'est-ce qui se passe après cette vie physique que nous connaissons? Eh bien, la Bible fournit des réponses à toutes ces questions. Et nous allons considérer les réponses à ces questions aujourd'hui. Et nous allons le faire en traitant la troisième croyance fondamentale de l'Église de Dieu Association mondiale. Notre croyance fondamentale numéro 3 a pour titre « L'humanité » et l'énoncé dit ceci, je cite maintenant. « Les êtres humains, hommes et femmes, ont été créés à l'image de Dieu avec la potentialité de participer à sa nature divine comme enfants dans sa famille éternelle. Les humains sont des êtres mortels qui dépendent de souffles de vie et qui sont sujets à la corruption et à la décomposition. Ils n'ont pas d'âme immortelle et ne possèdent pas actuellement la vie éternelle. Celle-ci est un don de Dieu accordé uniquement à ceux qui acceptent son appel, ainsi que les modalités et les conditions énoncées dans les Écritures. Dieu a donné à Adam et Ève le choix entre la vie éternelle communiquée par l'obéissance envers lui ou la mort entraînée par le péché. Adam et Ève ont succombé au péché en désobéissant à Dieu. En conséquence, la mort est entrée dans le monde, tous les êtres humains ont péché et sont donc soumis à la mort. Dans le plan de Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Je vais me permettre de relire cet énoncé des croyances parce qu'il sera important d'avoir cela clairement à l'esprit. Et puis nous allons procéder à le prendre point par point pour voir exactement ce que la Bible dit à propos de ces différents éléments et ce que nous devons retenir de cette compréhension. Permettez-moi de répéter. Les êtres humains, hommes et femmes, ont été créés à l'image de Dieu, avec la potentialité de participer à sa nature divine comme enfant dans sa famille éternelle. Les humains sont des êtres mortels qui dépendent de souffles de vie et qui sont sujets à la corruption et à la décomposition. Ils n'ont pas d'âme immortelle et ne possèdent pas actuellement la vie immortelle. Celle-ci est un don de Dieu accordé uniquement à ceux qui acceptent son appel, ainsi que les modalités et les conditions énoncées dans les Écritures. Dieu a donné à Adam et Ève le choix entre la vie éternelle communiquée par l'obéissance envers lui ou la mort entraînée par le péché. Adam et Ève ont succombé au péché en désobéissant à Dieu. En conséquence, la mort est entrée dans le monde. Tous les êtres humains ont péché et sont donc soumis à la mort. Dans le plan de Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Voilà l'énoncé de la croyance numéro 3 de l'Église de Dieu Association mondiale en ce qui concerne l'humanité. Et comme j'ai dit, je vous propose aujourd'hui de considérer quelques points saillants de cette définition que je viens de lire, et nous allons essayer de bien décortiquer les choses, bien comprendre les points les plus importants. Première chose que nous avons dit dans cet énoncé, c'est que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Et cet élément-là a une très grande importance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Regardons ensemble Genèse chapitre 1 et le verset 26. Genèse chapitre 1, tout au début dans la Bible, le livre des origines, Genèse chapitre 1, verset 26. Dans ce récit de la création, la récréation de la surface de la terre, Dieu dit ceci au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nous trouvons cette phrase tout au début de la Bible. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». À notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais encore faut-il comprendre ce que cela veut dire au juste, être créé à l'image de Dieu. Tout comme pour chaque animal est créé selon son espèce, c'est-à-dire qu'il ressemble à tous les autres de son espèce, c'est marqué ici que nous sommes créés à l'image de Dieu selon son espèce, selon notre ressemblance plutôt. Il n'utilise pas le mot espèce, mais c'est l'équivalent, hein, c'est tout comme. Nous sommes créés à sa ressemblance. Tout comme pour les animaux d'une seule espèce, ils se ressemblent, eh bien nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas tout près de Dieu dans nos capacités. Loin de là, nous sommes très loin de Dieu dans nos capacités, mais il y a quand même une ressemblance qui est là. Il y a certains traits communs, même si chez nous c'est à un bien moindre degré que ce que Dieu a et ce que Dieu peut faire. Nous avons comme une petite étincelle des capacités du Créateur, de l'Éternel. Par exemple, nous avons ce que nous appelons le libre arbitre. Nous pouvons choisir librement ce que nous allons faire, choisir, décider de notre comportement. Et ça, c'est un reflet en miniature de ce que Dieu peut faire. Dieu est absolument libre de choisir. Les animaux que Dieu a créés ne sont pas libres de choisir comme nous le sommes. Ils sont guidés par un instinct, une sorte de programmation qui est là. Non pas qu'ils n'ont aucun choix du tout, mais ils sont grandement guidés par l'instinct. Et cet instinct guide ce qu'ils font. Peut-être que nous avons quelques instincts à l'être humain, c'est possible, mais pour la plus grande partie de nos choix, nous sommes libres de choisir. Nous décidons pour nous-mêmes ce que nous voulons faire. Et en cela, nous sommes un petit reflet de ce que Dieu peut faire. Dieu décide ce qu'il va faire. Il a décidé de nous créer. Il n'était pas obligé de le faire. Il a décidé de créer des êtres humains. Il a choisi, à travers l'histoire humaine, il a choisi des gens avec lesquels il allait travailler. Regardez, il a choisi Abraham. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Libre à lui de choisir selon son plan, et c'est ce qu'il va faire. Et à travers l'histoire, il y a des familles, il y a eu des individus avec lesquels Dieu a choisi de travailler. Il a choisi une nation avec laquelle il voulait travailler, pour terminer, pour accomplir son plan. Un plan qu'il avait décidé de mettre en marche depuis bien longtemps, parce qu'il a choisi de le faire. Il est libre de choisir. Dieu a aussi choisi les moments dans l'histoire où il allait intervenir pour l'accomplissement de son plan. Il n'était pas obligé, il a choisi de le faire. Et comme j'ai dit, nous avons un reflet de cette capacité. Dieu a choisi certains jours pour qu'ils deviennent saints. Et nous aussi, il nous laisse la liberté de choisir ce que nous allons faire. Il nous explique, voilà le bien, voilà le mal, maintenant choisissez le bien pour que vous viviez, mais il ne nous y oblige pas. Nous sommes libres de lui obéir ou non. Bien sûr, Dieu nous explique dans sa parole les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance, et puis il nous dit, choisissez, choisis. Est-ce que tu veux l'obéissance et la vie, ou est-ce que tu veux faire à ta tête et arriver finalement à la mort? Il nous laisse libres de le faire. Il nous dit de choisir la vie, mais il ne nous y oblige pas. Nous avons le libre arbitre. Dieu exerce parfaitement ses choix pour accomplir son but, d'accomplir le bien. Il ne fait que le bien. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ce libre arbitre que Dieu nous donne. Nous apprenons par les expériences de la vie, les erreurs et les triomphes de la vie, comment bien choisir et bien nous conduire. Mais en ayant le libre arbitre, ça nous fait, nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Là où les animaux ne le sont pas. Les animaux sont guidés par l'instinct. Comme j'ai dit, ils sont un peu programmés. Ce n'est pas le cas pour nous. Être créé à l'image de Dieu veut dire aussi que nous sommes créateurs. Nous sommes capables, à bien moindre degré que l'Éternel, mais nous sommes capables de créer. Nous profitons d'une créativité que Dieu a mis en nous. Dieu est créateur. Il a créé tout ce qui existe dans le monde. Il a créé le monde des anges, le monde des esprits. Il a créé l'univers physique, si énorme et complexe que nous ne pouvons pas tout apercevoir. Il y a peut-être même des revers de l'univers, la matière noire ou sombre que nous ne connaissons même pas, nous ne pouvons pas le percevoir. Mais nous sommes capables de créer. Si nous pensons à tout ce que les hommes et les femmes sont capables d'inventer, eh bien c'est assez étonnant, époustouflant même parfois. Pensez à la musique que les hommes et les femmes ont pu composer, les arts plastiques que nous pouvons produire, et certains sont très doués dans ces domaines. Nous construisons de grands bâtiments, nous inventons toutes sortes de choses. Pensez à toutes les inventions des êtres humains dont nous pouvons profiter aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Nous créons les ébauches et nous construisons des maisons et des choses bien plus complexes que cela. Nous créons et nous fabriquons des avions qui sont capables de faire des choses incroyables, de voler à plusieurs kilomètres dans l'air, de voyager à des vitesses inouïes et d'arriver sain et sauf à destination. Nous créons des choses qui sont incroyablement compliquées et complexes. Des fusées qui peuvent aller jusque sur la Lune. Des machines extrêmement compliquées pour creuser des tunnels sous la Terre. Tout cela peut être conçu dans l'esprit humain parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous avons donc un petit avant-goût de sa créativité. C'est parce que Dieu nous a donné ce reflet que nous sommes capables de faire bien plus que les animaux. Même les animaux les plus intelligents, mais ils ne peuvent pas faire le minimum de ce qu'un être humain peut faire. Les animaux ne créent pas de symphonies. Les animaux ne construisent pas de maisons. Des oiseaux construisent des nids, mais par instinct. Et tous les nids se ressemblent. Hein. Selon une espèce, c'est très similaire. Mais comme j'ai dit, même les nids se ressemblent. S'il y a des maisons ou des abris pour les animaux, eh bien, tout se ressemble. Il n'y a pas une très grande diversité dans une espèce particulière, parce qu'ils sont guidés par l'instinct. Mais les hommes ont une capacité de création qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Nous avons une capacité frappante de créativité. Même les moins doués parmi les êtres humains sont capables d'une très grande créativité. Et ça, c'est un reflet de la créativité de notre Créateur. Parce qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Ce qui rend tout cela possible, c'est que Dieu nous a donné cette petite étincelle, ce petit avant-goût de ce que lui, il est capable de faire. Pourquoi et comment est-ce que Dieu a fait en sorte que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, je dirais bien, comment est-ce que cela se fait? Eh bien, la Bible révèle, c'est à cause d'un élément spirituel que Dieu met dans l'être humain, l'esprit de l'homme ou l'esprit dans l'homme, la Bible l'appelle, et c'est ça qui nous différencie des animaux. Regardons Job 32. Job chapitre 32, nous allons lire le verset 8. Job chapitre 32, verset 8. Nous avons un premier aperçu de cet esprit dans l'homme qui n'est pas une âme. Nous allons arriver là dans un instant. C'est un élément spirituel, mais ce n'a rien à voir avec l'idée reçue de l'âme dans la civilisation occidentale. Et nous allons faire la part des choses dans un instant. Mais Job chapitre 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. La version Darby le traduit ainsi. Toutefois, il y a un esprit qui est dans les hommes et le souffle du Tout-Puissant leur donne de l'intelligence. Ce qui nous donne de l'intelligence des êtres humains, c'est cet élément spirituel, l'esprit que Dieu nous donne. Un élément spirituel, un élément non physique qui fait partie de la composition de l'être humain et qui nous donne ce reflet vague des capacités de notre Créateur, des capacités de Dieu. Le pouvoir de comprendre, de discerner la différence entre les choses et de comprendre en particulier la différence entre le bien et le mal. Les animaux sont incapables de discerner la différence entre le bien et le mal. Ils ne peuvent pas capter cette idée-là. Ils ne se posent pas des questions morales. Tiens, est-ce que je dois manger cet animal-là? Est-ce que c'est normal que je tue ou que je ne tue pas? Il n'y a pas d'état d'âme chez les animaux parce qu'ils n'ont pas cet élément spirituel. Ils n'ont pas ce discernement, cette capacité de discerner entre le bien et le mal. Ils sont, comme j'ai déjà dit, ils sont un peu, on peut dire, programmés. Et c'est grâce à cet esprit, et j'ajoute rapidement que cet esprit n'a pas de conscience séparée du corps. C'est pas comme une âme qui peut aller quelque part être conscient sans avoir de corps. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une âme, ce n'est pas une conscience séparée du corps. Mais c'est un élément spirituel qui multiplie les capacités de notre cerveau et qui nous ouvre à d'autres domaines de réflexion, à d'autres domaines d'activité mentale et permet à l'être humain de créer, de réfléchir et de distinguer entre le bien et le mal. Et nous le comprenons bien. Chaque être humain sait qu'il existe le bien et le mal. Nous regardons le monde et nous nous posons la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de maux, pourquoi tant de mal sur la terre, que les êtres humains se traitent comme ça, c'est mauvais, c'est pas bien. Nous comprenons cela. Même les enfants en bas âge, ils ont déjà une idée de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est cet esprit dans l'homme qui nous donne cette compréhension. Regardons un autre passage qui parle de cet esprit dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, ce que nous voyons ici, c'est le contexte d'un élément spirituel dans l'homme, l'esprit de l'homme, et aussi, il y a un autre esprit qui est l'esprit de Dieu. Et c'est une explication ici de comment Dieu ouvre notre compréhension aux choses des hommes, c'est-à-dire aux pensées, aux réflexions, aux connaissances que les êtres humains peuvent avoir et que les animaux ne peuvent pas avoir. Ce qui nous différencie des animaux, c'est l'esprit dans l'homme. L'esprit dans l'homme. Parce que certains des animaux, nous le savons maintenant, les recherches scientifiques montrent qu'il y a des animaux qui ont des cerveaux aussi grands que les nôtres. Il y en a même qui nous ressemblent corporellement. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de monter voir les gorilles de montagne au Rwanda. Et ce qui est fascinant chez les gros singes, les grands singes, c'est qu'ils nous ressemblent pour beaucoup. Ils ont des mains, certains de leurs gestes sont très humains ou très comme les humains. Ils se grattent de la même manière que nous à cause de leur forme. Mais quand il s'agit de leur capacité de réfléchir, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a tout simplement pas de comparaison. Et l'explication, c'est que nous pouvons comprendre les choses de l'homme à cause de l'esprit de l'homme qui est en nous. Et de la même manière, nous ne sommes pas capables de comprendre les choses de Dieu si l'esprit de Dieu n'agit pas en nous. De nous-mêmes, personne ne connaît les choses de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons le faire. C'est cet élément spirituel-là que Dieu ajoute à notre esprit humain quand nous sommes convertis, et c'est ça qui fait l'esprit de l'homme, qui fait que nous sommes créés à son image. Les animaux ne peuvent pas être créés à l'image de Dieu. Même le singe, qui a la même forme corporelle plus ou moins que nous, mais il n'est pas créé à l'image de Dieu, parce qu'il n'a pas cet élément spirituel. Comme nous sommes créés à l'image de Dieu, et que nous pouvons faire ces distinctions entre le bien et le mal, nous avons le libre arbitre, cela nous permet d'avoir une relation particulière avec notre Créateur. Il y a une relation possible entre les êtres humains et Dieu qui n'est pas possible pour les animaux. Nous qui avons été appelés par Dieu, nous sommes dans le début d'un processus qui peut nous faire entrer carrément dans la famille divine d'être ses enfants. La Bible en parle, on regardera d'autres passages tout à l'heure. Nous avons la potentialité, la possibilité d'être enfants de Dieu dans la famille divine. Et c'est finalement cela qui est représenté par cette phrase « créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance », ce qui est dit à propos des animaux selon son espèce. Nous sommes créés selon l'espèce de Dieu, en quelque sorte. Nous avons la potentialité d'arriver à son niveau d'existence, de vivre comme lui, il vit. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre à propos de l'être humain. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et là, nous pouvons comprendre pourquoi il y a une telle différence entre les hommes et les animaux. Différence de créativité, différence de capacité, différence de réflexion, surtout dans le domaine moral. C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et les animaux, non. Un autre aspect que nous avons vu dans la croyance fondamentale était que les êtres humains sont mortels. Ils vont mourir. Nous allons mourir. Nous n'avons pas encore la vie éternelle en nous. À la différence de cette fausse idée qui est très répandue dans le milieu chrétien du monde, qui a l'idée traditionnelle d'une âme immortelle dans l'homme. En fait, la Bible n'enseigne pas l'immortalité de l'âme. Nous n'avons pas déjà l'immortalité en nous. L'idée de l'âme immortelle est qu'il n'y a que deux choix. Vous allez vivre éternellement ou en enfer ou au paradis. Mais de toute façon, vous êtes immortel. Vous avez déjà l'immortalité. Vous allez mourir. Si vous choisissez mal, vous irez en enfer. Si vous choisissez bien, vous irez au paradis. Mais de toute façon, vous allez vivre éternellement. Alors que la Bible explique que ce n'est pas vrai. Nous allons mourir. Les êtres humains sont mortels. Hébreux chapitre 9. Et la mort, c'est la mort. Ce n'est pas la vie éternelle ailleurs. La mort veut dire la mort. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 27. Versets 27 et 28. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous allons mourir une seule fois. Nous n'allons pas être réincarnés, comme le croient certaines religions de l'Asie. Nous n'allons pas revenir à la vie des milliers de fois en attendant d'arriver au nirvana ou je ne sais pas quoi. Nous allons mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement qui veut intervenir. La Bible parle de la seconde mort, et de cette mort-là, on ne revient jamais. Ça, c'est après le jugement, ceux qui se sont rebellés contre Dieu, refusent de se soumettre à Dieu, ils vont mourir et ça sera le néant pour toute l'éternité. Ils ne vont plus revenir. Nous serons jugés dans ce jugement selon ce que nous aurons fait, le bien ou le mal. Et Dieu récompensera les êtres humains d'après ce jugement, selon qu'ils auront fait le bien ou qu'ils auront fait le mal. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, nous allons tous mourir. Chaque être humain a ou va mourir. Sauf éventuellement pour certains qui sont des chrétiens qui seront en vie au retour de Christ, ils seront transformés, la Bible le dit. Mais à part ces quelques personnes-là, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ce sera la mort. Nous allons passer du temps dans le tombeau et dans l'inconscience totale. Il n'y a pas de conscience dans le tombeau. Et ça, c'est en attendant le jugement. Nous ne saurons rien pendant le temps de notre mort, jusqu'au moment de notre résurrection à la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comprimis, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est la mort. Nous sommes mortels maintenant. La Bible indique que quand il est question de mort, c'est la mort. Beaucoup d'églises dans le christianisme traditionnel veulent nous dire que la mort, ce n'est pas la mort, c'est la vie autrement. Votre corps va mourir, mais votre âme va continuer à vivre et vous allez vivre dans l'éternité, comme j'ai dit, ou en enfer, où vous serez torturé pendant toute l'éternité, ou vous serez au paradis. Et la Bible n'indique pas que nous avons une âme immortelle. La Bible dit plutôt que nous sommes des âmes. Et ça, c'est un élément très important à comprendre. Nous sommes mortels, nous allons mourir. Cet élément spirituel que Dieu nous donne va retourner auprès de Dieu, sans conscience, en attendant la résurrection. Revenons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, revenons dans la Genèse et voyons ce que Dieu a dit. Au verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7. C'est un autre aspect, un autre point qui est mentionné dans la croyance fondamentale. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Apparemment, si nous essayons d'imaginer la scène ici, Dieu avait formé le corps d'Adam, mais le corps était sans vie. Et puis, à un moment donné, Dieu, par le souffle de vie, il a fait démarrer cette machine physique, si on veut, Le sang commençait à pomper, les poumons ont commencé à souffler pour oxygéner le sang, et l'être humain s'est mis à respirer. Dieu a donné la vie à Adam, ensuite il a donné à Ève, et cette vie, ce processus de vie vitale, a été transmis d'Adam et Ève à leur descendance jusqu'à nous. Mais vous avez noté, j'ai insisté un peu sur le fait, c'est pas marqué que l'homme a eu une âme entrée en lui, ou Dieu a fait entrer une âme dans l'homme. Non, c'est marqué, l'homme devint une âme vivante. Alors, d'après la Bible, ce n'est pas que nous avons une âme, c'est que nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes. Vous êtes une âme, moi je suis une âme. Et c'est la signification du mot dans l'hébreu. Regardons un autre passage dans Lévitique 17. Lévitique 17, à partir du verset 10. Dieu avait interdit aux Israélites de manger du sang, puisqu'il y a un élément, pas sacré exactement, mais réservé au sang. Il y a une qualité spéciale au sang. Soit dit en passant que la Bible ne dit pas que nous ne pouvons pas avoir de transfusion sanguine. Ça, c'est pas manger. Manger, c'est passer par la bouche, le sauvage, etc., terminer dans l'estomac. C'est par respect du sang que nous ne devons pas le manger. Mais transfusion sanguine pour sauver la vie à quelqu'un, la Bible n'en dit rien. Ce n'est pas interdit. Ça serait même, si nous pouvions sauver la vie à quelqu'un, ça serait une bonne chose à faire. Verset 10 de Lévitique 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Continuons. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de la poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucun chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. C'est le sang qui transmet le souffle de vie, l'oxygène dans le corps. C'est par ce processus-là, l'oxygène qui entre dans le sang qui circule dans le corps, que nous pouvons rester en vie. C'est comme cela que nous sommes des âmes. C'est ce processus-là qui fait de nous des âmes. Nous sommes des êtres vivants à cause du sang qui circule et de l'oxygène qui est dedans. La circulation sanguine et la respiration, c'est le souffle de vie. C'est par là que nous tirons notre existence de Dieu, mais à travers le sang qui fait circuler en nous. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons lu que l'homme devint une âme vivante. Il n'est pas marqué que Dieu a fait entrer son âme en lui, ou que Dieu a emprisonné une âme dans ce corps physique, ou au moment où l'homme a commencé à respirer. Ce n'est pas ça que nous trouvons dans la Bible. Il est important pour nous de savoir, et facile de prouver maintenant, nous avons à notre portée des sources de recherche sur Internet ou sur autre, hein, c'est le moment le plus facile dans l'histoire humaine de faire des recherches, quoi qu'il faut faire la part des choses parfois à ce qui est en ligne, mais c'est important de comprendre que l'idée de l'immortalité de l'âme ne se trouve pas dans la Bible. Ce n'est pas l'origine de cette idée d'une âme immortelle. C'est assez simple de vérifier si vous souhaitez le faire, mais que cette fausse idée de l'âme immortelle a commencé avec Socrate et les philosophes grecs. Platon a écrit dans son livre Le Phédon, dans les années 300 avant Jésus-Christ, à propos de la mort de Socrate, c'est un des thèmes principaux dans Le Phédon, il expliquait que l'âme doit être immortelle. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion? Simplement par des raisonnements humains. non pas par des preuves, non pas par un passage biblique, non pas par une source qui faisait autorité, c'est par son simple raisonnement. Il raisonnait ainsi, il est arrivé à cette conclusion. Il y a eu des raisonnements, des contre-raisonnements, des arguments cycliques raisonnés, etc., comme le faisaient les Grecs. Et puis, par son seul raisonnement humain, il est arrivé à la conclusion qu'il doit avoir en nous une âme immortelle. L'homme doit avoir une âme. Et ce n'est que par la suite, quelques centaines d'années après, que l'Église, la grande Église catholique, influencée par le grand penseur, comme Augustin, entre autres, ont été, eux, influencés par ce que pensaient les philosophes grecs, et cette idée de l'âme immortelle a été adoptée dans le christianisme traditionnel. Mais ils n'ont pas cherché dans la Bible à savoir ce que la Bible dit à ce sujet, sinon, ils seraient facilement arrivés à la conclusion que nous sommes des âmes. Une âme, c'est un être physique mortel qui respire, un être vivant. Mais ils ont plutôt emprunté cette idée à Socrate, Platon et les autres pour dire que nous avons une âme, qu'il y a une âme emprisonnée dans notre corps le temps de notre vie, et à la mort, cette âme est libérée pour retourner là où elle était avant. Ça ne se trouve pas dans les pages de la Bible, pas du tout. Mais c'est ce que croient par tradition beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui. Le plus souvent, le mot hébreu traduit par âme dans la Bible, c'est nefesh. Et nefesh, je ne vais pas faire toute une étude maintenant, on n'a pas le temps, mais nefesh traduit par âme, ça veut simplement dire un être vivant. Un être vivant. Ça peut même référer à un corps. Il y a même quelques passages qui parlent d'un nefesh mort, c'est-à-dire la carcasse d'un animal qui vient de décéder. La vie que nous avons peut cesser d'exister. Et il n'y a pas d'âme emprisonnée en nous qui va retourner quelque part là où sont les autres âmes quand nous mourrons. Hein? C'est une idée qui ne sort pas de la Bible. Regardons Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, nefesh. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mourra. Une âme peut mourir. Une âme n'est pas immortelle. Une âme peut mourir. Nous sommes des âmes, nous pouvons mourir. Nous sommes des âmes. L'âme, comme j'ai dit, c'est l'équivalent d'être vivant. Être physique vivant, c'est une âme. Quelqu'un qui a des poumons, un être qui a des poumons, le sang qui circule d'une façon ou d'une autre, qui est vivant, eh bien, ça c'est un nefesh. Il y a même quelques versets, comme j'ai dit, dans l'Ancien Testament, qui parlent de nefesh mort, c'est-à-dire un animal récemment décédé qui a rendu le souffle de vie, qui a rendu l'âme, comme on dit, eh bien, il a fini de vivre, il est mort. Ézéchiel chapitre 18, toujours verset 20. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et puis il explique, si le méchant se repent, ben, il sera pardonné. Si le juste se met à pratiquer le mal, ben, il en portera la responsabilité. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Notons aussi que le fils ne portera pas le péché de son père, dans le sens absolu. C'est clair que si nous avons de mauvaises habitudes dans la maison pendant que les enfants grandissent, ils peuvent être affectés par les péchés des parents, mais dans le sens absolu devant Dieu, Dieu n'applique pas le péché du père au fils pour dire qu'il doit mourir à cause du péché de son père. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Nous portons nos propres responsabilités. Nous sommes responsables de nos propres actions. Maintenant, revenons encore une fois à un autre aspect de la définition que nous avons donnée au début. Nous voyons un troisième aspect, c'est que l'être humain est pécheur et imparfait. Il est pécheur de nature et il est imparfait. Souvent, la psychologie, la sociologie moderne, entre guillemets, voudrait faire croire que l'homme, que nous sommes tous foncièrement bons, que l'être humain est bon de nature. Et que s'il y a quelque chose qui cloche plus tard, c'est la faute de la société d'avoir déformé l'être humain, mais que les êtres humains arrivent dans le monde bien. Et comme j'ai dit, s'il y a du mauvais, s'il y a des crimes ou s'il y a un mauvais comportement, c'est la faute à quelqu'un d'autre. C'est la faute à la société qui a transformé cette personne en mal. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Quand la société et les autorités nous disent ben, « acceptez-vous comme vous êtes », si vous avez des problèmes ou si vous vous comportez mal, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous êtes bon, acceptez-vous comme vous êtes. S'il y a du mauvais, c'est la faute à quelqu'un d'autre. C'est parce que vos parents vous ont dit de ranger vos chaussettes et ça vous a détraqué, etc. Bon, je blague un petit peu, mais c'est dire que nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons, puisque nous sommes entrés dans le monde bon et bien, et puis d'autres nous ont déformés. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La Bible révèle, au contraire, que nous avons une nature en nous qui n'est pas bonne, que nous péchons par nature, et qu'il y a une nature humaine qui nous pousse vers la transgression de la loi de Dieu. Tout le monde pêche, tout le monde a toujours péché, depuis le péché d'Adam et Ève. Et ça, c'est très clair. Nos premiers parents ont été de mauvaises influences, mais nous avons chacun depuis choisi de transgresser la loi de Dieu. Nous avons ce libre arbitre, et assez souvent, nous choisissons mal. Regardons quelques passages à ce sujet. D'abord, dans Romains chapitre 23. Vous avez cherché Romains 23 pendant longtemps. Romains chapitre 3. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a qu'une seule exception, c'est Jésus-Christ, le seul être humain qui n'a jamais commis de péché. Tous les autres humains ont péché. Chaque être humain qui a jamais vécu a péché. Vous avez péché, moi j'ai péché. Tous les êtres humains ont péché. Ça fait partie de notre nature humaine de nous pousser dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Poursuivons. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Puisque nous sommes pécheurs, puisque nous sommes imparfaits, nous avons besoin d'être sauvés, puisque Romains chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons tous mourir à cause de nos péchés. Nous sommes tous pécheurs, nous avons besoin d'être sauvés. C'est de là qu'il y a l'idée du salut dans la Bible. Encore une idée que beaucoup de gens ne comprennent pas. On a besoin d'être sauvés de quoi? De l'amende de nos péchés. L'amende du péché, c'est la mort. Nous sommes tous coupables, nous devrions tous mourir. Nous avons besoin d'être sauvés et rachetés de cette condition. Et Dieu a prévu cela en permettant à son Fils parfait de mourir à notre place. Il est mort, il ne devait pas mourir, mais il est mort. Et Dieu accepte sa mort à notre place quand nous nous repentons et nous nous faisons baptiser pour mettre nos vies entre ses mains. Il nous rachète. Par la grâce de Dieu, par la bonté, la générosité, l'amour de Dieu, il nous offre la possibilité d'être racheté, la rédemption par Jésus-Christ. Lui qui a vécu une vie parfaite, qui ne méritait pas la mort, mais a accepté de mourir à notre place pour payer l'amende de nos péchés. C'est différent de l'idée du péché originel, encore une fois, qui existe dans beaucoup d'églises dans le monde, où vous êtes coupable à cause de ce que Adam a fait. Adam a péché, et donc tous ses enfants sont coupables à cause de son péché. Mais la Bible nous montre que nous sommes coupables à cause de nos propres péchés. On n'a pas besoin du péché d'Adam sur nous. Nous sommes coupables parce que nous avons tous commis des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 5, Romains 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà une des origines de cette mauvaise compréhension du péché originel. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il conclut donc, le péché d'Adam est étendu sur nous tous. Mais le péché d'Adam est entré dans le monde, il est vrai, et par la suite de son mauvais exemple, qui nous a mis sur de mauvais rails, si on veut, et par la suite de notre nature humaine, l'intervention de Satan qui nous tente et tout le reste, nous sommes tombés, individuellement. Il n'y a pas eu simplement la chute d'Adam qui nous souille tous, nous nous souillons nous-mêmes par nos propres péchés. Les hommes sont coupés de Dieu. C'est pour ça que ce que nous voyons dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous avez péché, vous devez quitter le jardin. L'homme était coupé de Dieu et l'homme, sans l'intervention de Dieu, ben automatiquement il suit de mauvaises voies. Avec l'aide de Dieu et l'intervention de Dieu, nous sommes capables de mieux faire. Mais sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas. Et en se retirant de l'humanité, en chassant Adam et Ève du jardin, l'humanité a commencé à suivre un cours qui a fini par le fait que tous les êtres humains ont péché. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de péché originel qui nous entache maintenant. Nous sommes responsables de nos propres péchés. Nous sommes coupables chacun individuellement de nos propres péchés. Comme j'ai dit, c'est vrai, Adam a une certaine responsabilité parce que son premier péché a coupé sa famille de Dieu. Sauf pour les rares personnes à qui Dieu a décidé de se révéler. Les êtres humains, encore aujourd'hui, pour la grande partie, ne peuvent pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ils le verront par la suite, ça c'est un autre sujet. Mais ils ne peuvent pas comprendre la loi ou la volonté de Dieu à cause de cette séparation qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Mais tout cela dit, nous ne sommes pas responsables, nous, du péché d'Adam. Nous sommes responsables de nos propres péchés. Nous devons mourir, nous avons une amende de mort qui nous attend à cause de nos propres péchés, non pas à cause des péchés d'Adam. Romains chapitre 6, je vous l'ai cité tout à l'heure. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, nous avons besoin d'être lavés de nos péchés. Si nous voulons recevoir de la part de Dieu ce don gratuit qu'est la vie éternelle, nous ne pouvons pas recevoir ce don gratuit si nous avons cette amende de mort qui nous attend toujours. Une fois que, par la rédemption qui vient par Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, lavés, là, Dieu peut nous donner ce don gratuit de la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ est désormais disponible. Oui, nous n'avons pas la vie éternelle maintenant. Pas d'âme immortelle. C'est un don que Dieu nous donne. Il nous offre. Et nous pouvons le recevoir uniquement quand nos péchés ont été pardonnés à travers le sacrifice de Jésus-Christ. En nous repentant, quand nous décidons, nous acceptons de mettre notre vie entre les mains de Dieu, nous recevons le pardon de nos péchés gratuitement, nous recevons le don de son Saint-Esprit, là, Dieu nous promet la vie éternelle. C'est une promesse. Nous ne l'avons pas encore, mais il nous le promet, et ça c'est comme si c'était fait, mais nous ne l'avons pas encore reçu. C'est la promesse de Dieu. Pour le moment, un être humain qui meurt, coupé de Dieu, n'aura pas le droit à vivre pendant toute l'éternité, sauf par la résurrection, par le repentir, par le processus par lequel le chrétien doit passer aujourd'hui, et il peut recevoir ce don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Nous avons également vu, dans l'énoncé des croyances, à propos de l'humanité, que nous avons la potentialité de participer à la nature divine, à sa nature, comme ses enfants. Et ça, c'est une des choses les plus grandioses que nous pouvons concevoir, que nous pouvons imaginer, d'avoir une telle potentialité. de participer à sa gloire, à sa famille divine. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part la plus grande, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. De la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà une vérité qu'il faut vraiment chérir. Nous pouvons participer à sa divinité. Nous pouvons participer à la nature divine. Ça va beaucoup plus loin que ce que l'imaginent la plupart des chrétiens aujourd'hui. Ils espèrent devenir un ange un jour, flotter dans les nuages ou je ne sais pas quoi, regarder le visage de Dieu éternellement. Non pas que ces choses ne seront pas possibles, mais nous allons participer, c'est marqué là, à la nature divine, c'est-à-dire de faire partie de la famille de Dieu qu'il est en train de former maintenant. Et ça, mes frères et sœurs, nous devons garder ceci à l'esprit dans les moments éprouvants et difficiles de cette vie présente. Quand nous nous posons la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle vraiment? Quand nous souffrons, nous sommes dans la douleur, dans toutes ces tracasseries que nous avons affrontées dans la vie. Et cette vie a son lot de tracasseries, n'est-ce pas? Mais nous devons toujours garder à l'esprit, en particulier là, cette potentialité, notre raison d'être, la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est de pouvoir arriver un jour à participer à sa nature, comme ses propres enfants. Il nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses, c'est marqué ici. Il nous offre cette possibilité, il ouvre la porte devant nous pour pouvoir participer à sa nature, participer à la nature divine. Il n'y a rien de plus grandiose que ça. Et ça dépasse de loin ce qu'imaginent la plupart des chrétiens aujourd'hui, ceux qui se croient chrétiens. Ça, c'est vraiment notre but. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est le but pour lequel il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour qu'un jour nous puissions faire partie de sa famille divine. Et comme j'ai dit, je pense que vraiment ça vaut la peine de garder cette idée fermement dans nos esprits. Aussi petits que nous soyons aujourd'hui, et nous sommes petits, faits de la poussière de la terre, eh bien nous avons la potentialité, notre Père Céleste nous l'a donné, de participer un jour à sa nature divine, de faire partie de la famille qu'il est en train de préparer, de créer aujourd'hui. La Bible parle de nous comme frères, la Bible parle de Dieu comme notre Père, Jésus-Christ comme notre frère. Dieu est en train de former une famille. Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est dans l'union de l'Esprit de Dieu avec notre esprit que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et c'est là le moment que nous devenons véritablement héritiers de Dieu, enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Quand le Saint-Esprit de Dieu s'unit avec l'Esprit de l'homme qui est en nous, ça fait de nous des enfants de Dieu. Et ça nous ouvre cette magnifique possibilité pour l'avenir. Co-héritiers de Christ. Nous allons hériter tout ce que le Christ va hériter, et ça c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est tout. C'est toute la création. La création physique, toutes ces planètes, ces étoiles que nous arrivons à peine à voir dans l'univers, c'est le monde des esprits que Dieu a créé. nous pouvons hériter de tout cela avec Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Quand nous regardons tout ce que l'homme arrive à apercevoir de cette création, eh bien c'est vraiment époustouflant. C'est époustouflant de pouvoir imaginer hériter un jour de tout cela. Et Dieu qui est créateur a certainement encore des projets en tête. Ce qu'il va créer de toute cette étendue. Dieu ne crée rien sans but, sans motivation. Qu'est-ce qu'il a en tête pour tout cet univers? Ben, je ne sais pas. Mais je suis persuadé qu'il a quelque chose. Il a un projet en tête pour tous ces autres éléments, tous ces autres aspects de sa création. Que veut dire sa nature divine? Qu'est-ce que ça veut dire que nous pouvons arriver à sa nature divine? Eh bien, ça veut dire tout d'abord l'immortalité. Dieu est éternel. Arriver à sa divinité, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons devenir immortels. Recevoir la vie éternelle, comme nous avons déjà vu, cette idée-là ne doit jamais devenir vieux jeu pour nous. On ne doit jamais devenir blasé de cette compréhension, de pouvoir vivre éternellement. Il viendra le moment quand nous pourrons revêtir l'immortalité. Et ça dépassera complètement cette vie physique. Nous pourrons vivre éternellement avec Dieu et avec sa famille spirituelle, nos frères et sœurs, que Dieu est en train de préparer maintenant. Deuxièmement, en parlant de sa divinité, la Bible nous montre que quand Jésus-Christ apparaîtra, nous serons comme lui. Regardez 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 3. Verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, qu'il n'a pas connu, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quand nous lisons des descriptions de comment Jésus-Christ sera à son retour, dans toute sa gloire, avec toute sa puissance, ça c'est vraiment étonnant. Et nous allons être semblables à lui. Est-ce que ça semble un blasphème? Ce n'est pas, la Bible le dit. La Bible dit, nous serons semblables à lui. C'est incroyable, c'est formidable. Comme nous lisons les descriptions de Christ glorifié, son visage brille comme le soleil. Il y a la puissance et la brillance qui l'entoure. Nous allons être semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons à ce moment-là des êtres spirituel, les enfants de Dieu. Nous verrons beaucoup plus que ce que nous pouvons voir maintenant. Dieu, lui, est omniscient et sait tout ce qui se passe. Et nous serons semblables à lui. Et quand on pense à la grandeur de Dieu, ça dépasse les limites de notre entendement actuellement, mais nous pouvons essayer d'imaginer ce que ça peut être. Ça nous dépasse, tellement c'est grandiose et magnifique. Et c'est ce que notre Père Céleste nous offre. C'est pour cela qu'il nous a créés. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Verset 6 dit que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Puis nous lisons en verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire, et l'immortalité. Ceux qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ce sont des éléments, des récompenses que nous devons chercher. Nous cherchons l'honneur, la gloire. Nous devons les poursuivre ardemment en nous soumettant à la volonté de Dieu, en agissant selon ce qu'il nous dit, sa façon de vivre. Et il faut chercher immortalité également. Et comme j'ai dit, nous faisons cela en nous soumettant à la volonté de Dieu, en faisant ce qu'il nous dit dans sa parole. Et alors nous pouvons recevoir le don gratuit qui est la vie éternelle. C'est une vérité très importante. Nous devons avoir cela à l'esprit tous les jours de la vie. Chaque idée que nous pensons doit être soumise à cette compréhension. Chaque action que nous faisons doit être soumise à cette compréhension. Chaque décision que nous prenons avec notre libre arbitre doit être prise en fonction de cette récompense que Dieu nous offre. Je dois choisir dans le sens de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il faut se le dire ça tous les jours. Je dois choisir aujourd'hui en fonction de mon désir de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité, c'est notre raison d'être. Alors, mes frères et sœurs, comprenons bien ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et aussi ce que nous ne sommes pas. Nous sommes physiques, créés à l'image de Dieu. Nous sommes imparfaits et pécheurs, mais avec un esprit qui nous donne la potentialité incroyable de changer pour nous améliorer, avec l'aide de Dieu pour nous parfaire. Nous sommes mortels, sans âme immortelle, mais nous avons la potentialité de recevoir l'immortalité et de vivre pour l'éternité avec Dieu dans sa famille divine. Nous ne sommes que peu pour le moment, mais Dieu nous a donné la plus grande potentialité de toute sa création. C'est ça, l'humanité.